À tous, un excellent midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Bon mercredi. Comme à chaque mercredi, on a le plaisir de jaser avec notre chroniqueuse, qui est chroniqueuse aussi au Soleil, Valérie Godreau. Salut Valérie!
Bonjour Yannick!
Le Salon du livre, t'es pas là toi?
J'y serai!
Ah oui?
J'y serai, même que si les auditeurs veulent me rencontrer. D'ailleurs, je suis une grande lectrice. D'ailleurs, tu as vu les images de mon loft, là, où le nombre de livres proportionnels au pied carré est absolument démesuré. Et je serai au kiosque du Soleil. Je vais faire ma plug ce midi, donc cet après-midi, aujourd'hui, mercredi et vendredi, de 13h à 15h. On a un petit kiosque au Soleil. On a même des petits divans. On a un partenariat avec la Galerie du Meuble. C'est un vrai lounge.
Vous êtes bien gâté.
Pour venir nous parler.
Y a-tu des grandes vedettes internationales qui sont prévues au Salon du Livre ou on aura juste la chance d'avoir Valérie Godreau?
Écoute. Seigneur, il fallait que tu te fies sur mes Pulitzer et mes Nobel pour remplir le salon. En fait, c'est un drôle de salon, hein, Yannick, parce que je pense que l'équipe a fait ce qu'ils ont pu, mais il y a une grosse ironie cette année. Il y a le Québec est à l'honneur au Salon du Livre de Paris. Puis, si on s'entend, c'est énorme. Mais là, c'est spécial Québec et c'est en même temps. Fait que t'as plein d'écrivains québécois qui sont à Paris. Des Michel Jean, des Daniel Ferrière, des t'sais. Fait que ça fait en sorte que ben, t'en as un petit peu moins pour Québec. Mais ils ont réussi à bâtir une programmation intéressante. Puis moi, j'aime beaucoup la bande dessinée, le Festival de la BD. En tout cas, je te parle comme je faisais la promotion du salon, mais moi, j'aime beaucoup la lecture, je trouve ça important.
Mais c'est correct, ça fait partie de chez nous. On fait de la radio locale, tu travailles pour un média local, toi aussi. Il faut parler de ce qui se passe chez nous. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ressemble de plus en plus à un politicien, hein, Valérie Godreau. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'exclut plus la construction d'un troisième lien autoroutier. C'est assez particulier. C'est-tu un volte-face?
Ben, en tout cas, ça m'en a tout l'air parce que lui a toujours dit que c'était exclusivement consacré au transport en commun. En plus d'arriver maintenant, alors que s'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas trop s'avancer, c'est bien le troisième lien, la Caisse de dépôt est en train de travailler là-dessus. Est-ce que on se demande, effectivement, certains analystes qualifient ça de volte-face? C'est très surprenant. On se demande s'il ne se fait pas un peu prendre par justement cette... Bon, ça commence à être réel, hein? Politique pour M. Saint-Pierre Plamondon, il était deux, il y avait le petit côté, l'underdog, qui tout à coup monte dans les sondages. Et là, il va se faire questionner. Et ce qui est particulier aussi, c'est que son opinion va être de plus en plus possible dans la mesure où qui sait s'il n'est pas en position de devenir le prochain premier ministre. Alors, c'est sûr qu'il y a une portée à ses paroles. Lui, il disait que... Il avait été surpris aussi là, que la semaine dernière, hein, Gilles Lehoulier, j'avais trouvé ça plutôt habile quand même, du maire de Lévis, il y a deux semaines, qui avait dit, tu sais, si le Québec devient pays, là, il va falloir un beau lien entre les rives. Alors, il s'adressait clairement aussi aux souverainistes. Alors, est-ce que tout ça nourrit la réflexion?
Ouais.
Je sais pas. C'est une chose de dire, regardons tout, on ferme pas la porte, laissons travailler la caisse et on verra. Et le plaider, là, je pense pas qu'il est encore avec une pancarte dans la rue là, pour plaider un troisième lien routier, mais c'est quand même étonnant comme position.
Puis il s'est ravisé un peu en fin de soirée, il mentionnait que bon, il allait se rallier du côté des experts puis de la population, donc il y aura peut-être consultation, parce que on est tous d'avis que, ben, en fait, la population aimerait, si on en croit au sondage, avoir un troisième lien. Puis moi, personnellement, j'aimerais avoir un troisième lien, oui, autoroutier, pour la sécurité des gens de Québec, puis je vais m'expliquer par la suite, mais je veux qu'il y ait du transport en commun, je veux que les vélos peuvent passer par là aussi, si c'est le cas. T'sais, je veux que tout le monde puisse être bien servi par ce futur troisième lien, qui serait, à mes yeux, à moi, le futur deuxième lien de Québec. Quand j'avais reçu Paul Saint-Pierre Plamondon en studio, Valérie, je lui avais demandé c'était quoi le fameux plan B, advenant le cas d'une fermeture temporaire ou peut-être un peu plus que temporaire, de quelques semaines du pont Pierre-Laporte. Et Paul Saint-Pierre Plamondon m'avait dit, ben on va les faire passer par le pont de Québec. Je dis, oui, mais les camions, vous allez les faire passer par quel endroit?
Exact.
Les camions ne peuvent pas passer par le pont de Québec. Puis encore là, dans ses yeux, je me suis rendu compte qu'il n'était pas au courant de cette donnée-là. Et je lui ai mentionné...
T'as vu une petite lumière de chevreuil devant les phares?
Et je lui ai mentionné que le plan B, c'était le pont La Violette à Trois-Rivières, qui lui aussi est complètement fini. Je lui ai dit, mais pour la sécurité des gens de Québec, puis même pour la sécurité des gens de Lévis, parce que s'il arrive une... On se le souhaite pas, mais il arrive une catastrophe. Je sais pas, moi, il y a un avion qui s'écrase. On a besoin des hôpitaux des deux bords. On s'organise comment, tu sais, si il y a un embouteillage sur le pont Pierre-Laporte. Fait que c'est toutes ces ces situations-là pour lesquelles on doit se dire, ben, OK, ben, peut-être que oui, effectivement, ça nous prendrait un lien qui ferait en sorte que les camions pourraient passer, parce que sur le pont de Québec, on ne sait pas quand est-ce que ça va être terminé, le pont de Québec. On a beau nous dire que c'est là encore pendant 30, 40, 50 ans, mais ce qu'on voit avec nos infrastructures, c'est que quand on s'aperçoit qu'ils sont finis, ben, il est déjà trop tard, il faut attendre, puis là, on aurait donc dû...
Pas deux mois plus tard, là, qui est réparé. On le voit, évidemment, on a parlé ensemble la semaine dernière de Baltimore. Est-ce que c'est un scénario possible pour Québec? Probablement pas, compte tenu du type de navigation. Mais il en demeure pas moins que, comme tu dis, tu peux pas dire on traversera le pont rendu à Rivière sans jeu de mots, là, parce que s'il tombe, c'est des années de reconstruction.
C'est la même chose pour ce qui est du pont de l'île d'Orléans. Ça a été retardé plusieurs fois, le pont de l'île d'Orléans. Puis quand on demande aux politiciens c'est quoi le plan B pour l'île d'Orléans, c'est la traverse Québec-Lévis. Donc, est-ce que les gens de l'île d'Orléans méritent mieux que ça? Je pense que oui. Donc, peut-être qu'on pourrait regarder ce qu'on pourrait faire autant pour l'île d'Orléans que pour Québec et Lévis, puis de faire quelque chose qui a du bon sens dans ce secteur-là sans détruire l'île d'Orléans, bien entendu. Mais juste revenir un peu sur le fait que les politiciens disent tout le temps « on va consulter les experts ». La plupart des experts, c'est des activistes. T'sais, c'est des gens qui sont anti-voiture puis qui vont dire « non, troisième lien, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de véhicules. » Bien, techniquement, oui, mais en même temps, c'est parce qu'on en a besoin. Pourquoi ailleurs, ils ont des infrastructures qui ont du bon sens? Puis nous autres, on devrait se dire, on va se rallier aux experts, puis on va avoir juste un troisième lien qui va être transport en commun. Pourquoi on devrait faire ça? T'sais, nous, se rallier à la vie des activistes constamment. Puis à Montréal, on a besoin d'un pont. Construisons-en un, tu sais.
Oui. Mais effectivement, avec cette vente, il faut les deux. Écoute, c'est terrible, c'est compliqué d'aller... Je parlais à Serge Bonin hier, le nouveau chef de Repensons les vies.
Oui,
on effectivement, il est pour un troisième lien, lui-là. Puis pourtant, c'est quand même quelqu'un qu'on assimile davantage à l'espèce de gauche un peu Valérie Plante. Il se revendique un peu de cette nouvelle génération de maires là, qui ont le transport en commun, la mobilité. Mais à un moment donné, il sait bien qu'il n'aura pas le choix. Par contre, à partir du moment où tu te dis « oui, on en veut un », mais où, comment, à quel prix et dans quel usage on en fait. Évidemment, on part là, d'un tunnel 100% routier jusqu'à d'autres possibilités. C'est dans ce sens-là que la mentalité de Paul Saint-Pierre Plamondon évolue. C'est pas impossible non plus. Mais la question de la sécurité, et on recommence à l'entendre davantage, tu as raison.
Climat toxique à l'Hôtel de Ville, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Là, dans les dernières heures, on a appris que la plainte d'Alicia Despins n'a pas été retenue. Il reste à savoir si la plainte de l'autre là, qui disait qu'il avait été victime de diffamation, ça va être retenu. Est-ce qu'on en sait plus sur cette fameuse plainte-là, sur la diffamation?
Dernière nouvelle, moi, hier, j'ai entendu Alicia Despins elle-même dire que la plainte, donc, de Steve Verrette, parce qu'il faut savoir qu'elle, dans sa plainte, elle alléguait... La plainte visait le chef de cabinet, premier lieu, là, de Bruno Marchand, Clément Laberge, mais dans ça, elle relatait des événements, et on a su que ces événements-là, elle a fini par plus ou moins donner les noms publiquement, mais c'était notamment, mettait en cause Steve Verrette, qui est de l'équipe du maire. Alors, lui a dit... Que mon nom sorte, quand on ne sait même pas s'il y a une enquête. Celui a fait une contre-plainte et c'est ça. La première est annulée, n'est pas retenue par la commission municipale. On ne le sait pas pour la deuxième. C'est pas impossible, mais pas certaine que la CMQ, c'est le genre d'instance. T'sais, on parle de plainte de diffamation. La diffamation, presque dans le judiciaire à proprement parler. Alors, est-ce que si une tombe, l'autre tombe, est-ce qu'elle sera non recevable? On le sait pas, c'est encore flottant. Donc, il y a encore, malgré, on pourrait dire presque la fin des procédures, hier, Alicia Despins disait que même si sa plainte n'est pas entendue, même si elle n'est pas rejetée, en fait, elle n'est pas fondée, donc il n'y aura pas de suite. Elle a dit qu'il y a quand même une victoire, mais elle doit quand même avoir une petite épée de Damoclès, elle a bien hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver avec la contre-plainte, si on veut le dire ainsi.
Mais pour les citoyens, Valérie, tu sais, moi je me dis, ben coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, là, il y a deux
Exact.
conseillers sont supposés en être revenus au coup. Finalement, les images vidéo, on peut pas y avoir accès. Ah, finalement, ceux qui ont vu les images vidéo disent, ah, ben on les a pas vus se coltailler, c'était juste quelques secondes avant. Puis là, ces deux conseillers-là s'entendent, puis on n'en entend plus parler. Alicia Despins qui se fait une sortie médiatique, qui est venue sur les ondes de Boulevard, qui a parlé régulièrement avec les gens du Soleil, dit, ben moi, David Weiser m'a suivi. Il parlait peut-être un peu fort. Je lui ai demandé quelques fois de baisser le ton puis de lui dire que cette conversation-là est un peu inappropriée avec le ton qu'il avait. Il n'a pas écouté depuis ce temps-là. Ben, je suis un peu inquiète de me promener à l'hôtel de ville seul. Finalement, ben, il ne s'est rien passé de ce qu'on comprend. Là, l'autre plainte, est-ce que ça va être reçu? Si l'autre plainte est reçue pour diffamation, il va falloir nécessairement qu'il y ait enquête, là?
Mais là, c'est ça, exactement. Puis si c'était pas fondé dans un. Puis je veux pas. On reste très prudent, on spécule un peu. Moi, je connais pas toutes les modalités là, du traitement des enquêteurs de la CMQ, de la commission municipale. Mais c'est sûr que si les allégations sont jugées non fondées, est-ce que c'est ça qu'on sait pas? C'est qu'on. La CMQ n'a pas à justifier, tu sais, ne dit pas telle affaire, ça nous a montré que monsieur un tel avait répliqué puis que finalement c'était, tu sais, il ne qualifie pas la situation. Ce qu'il dit, c'est pas suffisant. Donc, effectivement, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent reprendre et que si l'événement allégué finalement n'est pas en cause, ben là, ça serait justifié de penser que monsieur Verrette a été diffamé d'avoir été, que son nom soit sorti publiquement pour un événement qui, au final, n'est pas considéré comme une agression au sens où on l'entendait. Il y avait quelque chose aussi d'un petit peu difficilement vérifiable, et c'est là-dessus que je dois quand même dire que Alicia Despins, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens là, qui pourraient dire tout ça pour ça. Ça a fait quand même du bruit, ça a nommé des gens, ça a été difficile, mais il en demeure pas moins que ça a quand même fait une différence. Moi, le 19 mars, là, ça faisait un mois qu'il n'y avait pas eu de conseil, ça tombait comme ça. J'ai même écrit là, un texte qui disait à quel point, en tout cas, on verra si ça dure, mais il y a eu une prise de conscience de toute façon. C'est plate que ça se fasse au prix peut-être de dommages collatéraux comme ça, mais au total, il y a quand même une réflexion à avoir. Puis il y avait dans la plainte d'Alicia Despins, en tout cas dans ce qu'elle en disait, quelque chose d'un peu diffus. Tu te souviens, on parlait de Pierre-Luc Lachance qui s'y bondissait de son siège. Est-ce que le maire est capable de contenir un peu les ardeurs? Mais ça, c'est très difficilement vérifiable. C'est plus une culture, c'est un ton quotidien sur lequel les élus se parlent. Fait que peut-être que là-dessus, il y aura un certain gain d'être allé avoir une prise de conscience au-delà de l'événement comme tel. Puis tu sais que pour terminer sur la contre-plainte dont tu t'informes, c'est que à la limite, là, la CNQ a quand même une part de confidentialité. Hier, ça a sorti. Je pense qu'il y avait une attente des médias, du public aussi pour la suite. Mais dans certains cas, tu sais, la CMQ, elle ne justifie pas, là, elle n'a pas besoin de tout dire. Là. Fait qu'on pourrait même amener ultimement ne jamais savoir si la plainte a cheminé. Mais ce sera au parti de juger, par exemple, si M. Verrette apprend que sa plainte n'est pas retenue, il est libre de le dévoiler ou non. Fait que, ça reste la partie à vérifier.
Autre dossier, dans les dernières heures, on a appris que les travaux concernant le tramway, ça continue. Il y a à peu près huit autres immeubles là, qui vont rester à être démolis, donc huit bâtiments qui vont être détruits en prévision du futur réseau en 2024-2025. En fait, excuse-moi, en raison du tramway, mais c'est pour 2024 et 2025. Puis là, les partis d'opposition à l'Hôtel de Ville dénoncent le flou autour du projet, puis disent, ça serait-tu possible de faire une pause jusqu'en juin? Et là, le maire est sorti hier en disant, non, on n'aura pas d'autres plainiers sur le tramway. On va continuer les travaux qu'on avait prévus, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le futur tramway.
Oui, alors ça arrive dans plusieurs cas. Je relis quand même. Il y a cette, bon, il y a une, ça avait été pris, on dit, pour limiter les coûts des bâtiments, en disant c'est prévu de toute manière. Si on retarde, en fait, c'est comme ça montre à quel point le tramway était une immense machine. Hein, ça inclut énormément d'aspects. Ça fait penser un petit peu aussi à moindre échelle aux gens qu'on avait gardés au bureau de projet. Tu sais, c'est l'idée de dire c'est sur pause, mais si on détricote tout, ça va être plus compliqué de retricoter. Selon le sujet ou le type de projet qui sera proposé par la Caisse de dépôt. En même temps, il y en a certains qui n'ont pas eu lieu. C'est vrai qu'il y a un flou et là-dessus, je pense que l'opposition a raison de poser la question, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se poursuit. Moi, je pense qu'il y a des plans d'ingénieurs, il y a des affaires qui sont un petit peu au-dessus de nos têtes par rapport à ça. Et on se dit, il fallait de toute manière. Donc, on y va. Dans certains cas, il faut dire aussi que c'est des bâtiments, là, que l'entretien et tout ça coûtait cher. Donc, on essaie de justifier en disant, ben, allons-y quand même.
Et on a reposé la question au maire concernant la fameuse taxe sur l'immatriculation pour financer le
Ouais.
transport en commun. Qu'est-ce qu'il en pensait? Puis il a indiqué que pour lui, la question était toujours à l'étude, mais il avait bien dit aux gens du RTC que si jamais on utilisait cet argent-là, ça pouvait pas juste servir à compenser les déficits à 100%. Ce que le maire a dit, c'est que si on va chercher de l'argent dans les poches des gens, ben faudrait offrir des services en retour plutôt que de juste combler des déficits. Donc ça va être chose faite, ça, dans les prochaines années, là. Ils vont la prendre, la taxe sur l'immatriculation, maintenant que c'est possible.
Là, tu penses que, ouais, ben c'est ça. Il faut dire que ce qui complique les choses un petit peu aussi, c'est que des gens pensent que c'est pour tout de suite. Hein? Il faut signaler son intérêt. C'est ça qu'il fallait faire aussi avant. Et après, bon, pour dire, on pourrait l'avoir comme revenu. En même temps, c'est effectivement, il y a peut-être une contrepartie que de dire il faut aussi des services. Il ne faut pas que ce soit juste. Ce que mais ça responsabilise aussi les services de transport parce que là, ce que ça dit, c'est on ne veut pas juste ajouter de l'argent. Il faut aussi réformer, il faut aussi améliorer de l'autre côté. Et c'est le cas dans. Écoute, c'est tellement dramatique. Là, je ne veux pas faire de liens qui n'ont pas à voir, mais on regarde le métro de Montréal, ce qui se passe actuellement, les agressions, le climat, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est le sous-financement qui mène à ça? Est-ce que, bon, là, après, on peut alléguer bien des affaires, mais ça montre que les sociétés de transport, ça ne roule pas sur l'heure, sans jeu de mots, ces temps-ci, c'est clair.
Mais il n'y avait plus le droit de faire des déficits. Puis avec la pandémie, on dirait que, bon, le gouvernement a dit que c'est tout à fait normal que vous fassiez des déficits. Puis là, ben, c'est rendu, on s'est revenu comme avant. C'est possible de faire des déficits. Puis qui va casquer les déficits? Ben, on demandera plus d'argent à la population. Puis on continuera d'offrir toujours plus de services sans nécessairement augmenter l'achalandage dans le transport en commun. Tu sais, plus de services, mais on n'est pas capable d'augmenter l'achalandage. Je trouve ça particulier, là.
Ben,
Ça se peut-tu qu'on
c'est une.
soit, on soit à notre maximum d'achalandage pour ce qui est du transport en commun à Québec? Est-ce qu'un jour, on aura 15 % 20 % de la population? Je pense que c'est ce que tout le monde espère, mais dans la
Ouais.
réalité, on est autour de 7 8 %, puis ça montera jamais à 10, ça montera jamais à 15. Mais si on augmente constamment les budgets en disant on va offrir toujours plus de services, puis concrètement, on voit pas d'augmentation d'achalandage, on va-tu arrêter à un moment donné?
Ben, une des choses, il faut dire, il y a un argument un peu pro-tramway et entre guillemets anti-tramway qu'on pourrait alléguer dans ce cas-ci, c'est que le tramway. Bon, la question du tramway a fait aussi que ça a tellement drainé, c'est comme la solution miracle, ça a drainé un peu comme le troisième lien, on le sait, les dernières années. Il y a une espèce de. Comme si toute l'énergie était là en se disant, regarde, le tramway va venir, donc ça va être un peu la. Ça va résorber peut-être que là, ça va finir par convaincre des gens qui ne le prenaient pas, ça va faciliter le transport. Mais en même temps, il fallait parallèlement continuer à développer le système. Moi, j'utilise l'autobus. Je pense qu'il y a eu de vraies améliorations. Tu sais, les 802, 807, ils m'ont dit, là, on est loin de 30 à Charlebourg quand j'allais veiller à Fourmi Atomique. Tu sais? Ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que. Il y a cet aspect-là quand même, où on a vu quand même s'améliorer. Mais oui, il y a une limite à un certain moment. Et après ça, bien, on rentre dans la tête des gens. Puis qu'est-ce qui va convaincre quelqu'un qui habite Saint-Émile, qui habite plus loin dans l'arrondissement des Rivières? Bien, c'est d'avoir un bon service. Puis c'est là où la poule. Est-ce que tu ajoutes une ligne quand tu vas avoir 14 personnes dans ton autobus, 14 contents, mais qui au final n'ont pas la masse critique? Puis ça, c'est toute la réflexion. Est-ce qu'un service de transport, moi je pense qu'il doit être populaire, bien sûr, un bus qui roule à vide, il n'y a personne qui a intérêt à voir ça, mais en même temps, est-ce que tu as un quota de gens absolument qui doivent embarquer pour dire que il y a un effet service qui, oui, est peut-être moins rentable, mais qui fait partie aussi de ce qu'une ville doit offrir? Alors, c'est une grande réflexion, mais il y a encore amélioration, ça c'est assuré. Il y a des coins de la ville, là. C'est pas normal de faire des runs de lettres d'une heure et quart pour te rendre en autobus quand tu veux le faire. Et ça, bien évidemment, c'est dissuasif.
Dans le soleil de ce matin, on peut lire une chronique de Valérie Gaudreau, le comédien qui veut devenir maire de Lévis. C'est Serge Bonin qui joue plusieurs rôles. Tu fais un petit jeu de mots.
Alors, j'ai eu plein de petits jeux de mots.
C'est un conseiller municipal, c'est aussi un comédien. C'est un gars qui est responsable d'une chaire scientifique de mémoire aussi.
Oui, il a fait beaucoup de production, de diffusion, de vulgarisation scientifique à l'Allier, donc au deuxième, troisième cycle à l'Université Laval.
Ouais.
Il a produit une centaine de petites capsules qui expliquent. C'est vraiment un gars de radio, en fait, de voix off. Hein. C'est un gars dans ton monde, de gars de belle voix, vous connaissez ça, tous ces contrats de narration, de publicité, vraiment du home studio, là, t'sais, comment on appelle ça, du home radio, en tout cas. Donc, vraiment une voix très, très présente, beaucoup de contrats. Et effectivement, au fil des ans, c'est beaucoup. T'sais, familiarisé aussi avec la recherche universitaire, il a fait aussi des œuvres de fiction, il a fait des mises en scène. Donc, c'est un gars, c'est intéressant. J'ai essayé d'avoir un portrait ce matin différent. On l'a entendu beaucoup hier, on a entendu sur vos ondes, on l'a entendu avec Reg ce matin, on a entendu expliquer sa vision, tout ça. Mais moi, j'aime toujours dans les chroniques aller un petit peu dans le côté méconnu et il nous raconte des anecdotes, notamment qu'il a fait il a fait un livre à Bernard Landry dans une tempête de neige en pleine nuit. Et ça, il a tellement aimé la conversation avec Landry que ça l'a comme allumé. Puis il a été candidat péquiste en octobre 2018. Il a perdu, il a eu 9% contre Marc Picard à l'époque, le très dominant caquiste. Après ça, ben, en tout cas, il y a eu toute une. Il y a quelques anecdotes comme ça. Donc, essayer de comprendre l'homme à travers ça. Un gars qui vient vraiment du milieu culturel. Je trouve ça intéressant. C'est un profil différent aussi.
Et qu'est-ce que cet homme-là veut apporter à Lévis de plus que ce que
Ah.
Lévis a présentement?
Tu sais quoi? Ça, c'est une des réflexions qu'on fait. Il y a une affaire, moi, j'ai trouvé très, très concrète, là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il parle de. Bon, c'est des grands principes. C'est un gars très démocrate. Tu sais, bon, consultation citoyenne, plus de. Puis, j'ai pas le temps, évidemment, je déballe pas son programme dans ma chronique de ce matin. Mais une des choses qui est ressortie, c'est un gars de Saint-Étienne, de Lauzon. Il y a une façon, je trouve, très intéressante, pas nostalgique des anciennes villes, mais je pense qu'il comprend que, tu sais, là, 20 ans après la greffe, là, Lévis, c'est des quartiers, qu'il y a des grandes différences socio-culturel, économique, territorial entre les anciennes villes de Lévis. Et je trouve qu'il souhaiterait peut-être ramener un peu l'identité de tout ça. Tu sais, la vie pour ton quartier, c'est quoi un genre de conseil de quartier citoyen? Évidemment, ça existe, mais de peut-être rendre ça encore plus clair dans qu'est-ce que les gens veulent pour leur bout de Lévis. Alors ça, je l'ai trouvé intéressant là-dessus. Évidemment, puis ça, c'est toujours très abstrait. On le voit dans toutes les oppositions, Yannick. C'est quand ça ne fait pas ton affaire, tu t'en prends beaucoup à la forme. Puis c'est à la fois un avantage et une qualité et un défaut pour Serge Bonin et Alexandre Fallu, qui sont, rappelons-le, deux élus contre 14 de Gilles Houllier. La game n'est pas facile,
Ben non.
là. Puis quand moi, tu te rappelles les années Anne Guérette, Yvon Bussière, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement. Il y a tellement de choses, puis la machine est tellement grosse devant toi que tu te rabats parfois sur ce que j'appelle la forme. C'est-à-dire, oui, mais on n'a pas eu l'information à tel moment. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Donc, beaucoup de questions. Ils se font dire qu'ils en posent trop. Des fois, ils se font dire, vous avez l'air de vouloir faire la job d'urbanisme à la place du département d'urbanisme. Alors, tu sais, il y a quand même un picossage actuellement qu'il n'apprécie pas. Donc, je pense qu'il veut forcer les élus à expliquer leurs décisions, à vulgariser. Moi, je trouve ça très intéressant. Il dit, on l'a confronté en entrevue en disant, c'est quoi la limite à un moment donné, là, d'être toujours, toujours, toujours en train de remettre en question tout. Ben, il dit, moi, je suis payé. Il dit, je suis payé. J'ai été élu pour poser des questions, je le fais. C'est quand même intéressant. T'sais, il était tout seul. C'était quelque chose, là. Il était seul pendant un an et demi. Il est arrivé à Alexandre Fallu dans une partielle dans le district de Christoroy. Ça, Christoroy, là. C'est le centre des congrès, c'est le cœur de Lévis.
Ouais.
C'était quand même il y a eu un move là, tu sais, il y a quand même un signal, pas en train de dire que c'est une vague qui va faire ébranler les colonnes du temple de Gilles Lehoulier, mais M. Lehoulier n'a pas annoncé encore s'il revenait. Il veut l'annoncer en janvier 25. On sait que Stephen Blaney a commencé à lever la main. Ça se pourrait que le portrait change à Lévis, là. Et Serge Bonin ben, veut faire partie de ça. Donc, plus proche des gens. Il dit de faire attention aussi là, à la question du développement, ce qu'il qualifie de hors de contrôle. On a souvent parlé ensemble, Yannick, Lévis est un modèle dans la rapidité des mises en chantier. Mais là, il lui dit qu'il faut juste faire attention. Et d'ailleurs, le Conseil vient de le reconnaître. Hein, on va peut-être limiter là, le nombre d'étages sur le président Kennedy. Alors, il y a quand même une réflexion. Serge Bonin dit ben, moi, d'être là, ça. ça oblige à rendre des comptes.
Ben, chose sûre, c'est qu'il va y avoir énormément de boulot, là. On le sait, avec Lévis, la croissance de cette ville-là est juste hallucinante, là. Des fois, je suis quelques mois sans y aller, puis quand je reviens, je me dis, ah ben ouais, ça a encore changé.
Moi aussi, ça me fait ça. Le décor change, là. Tu sais, puis c'est ça, c'est un super avantage. C'est une vitalité économique hors pair. Il y a un bouillonnement. Et c'est juste de ne pas perdre, tu sais, un moment donné, là, de développer n'importe comment, puis qu'on le regrette dans une génération.
Exact. T'as-tu vent d'un merge entre l'équipe de Stéphane Lachance, qui est de Respect Citoyen, puis l'équipe de Patrick Paquette?
Non.
OK. Ça s'en vient.
Je vais t'avouer, là, je suis pas surprise sur le plan peut-être des idées.
De la stratégie, oui. Je sais qu'il y a une rencontre qui est prévue demain. Stéphane Lachance aurait un plan... pour l'équipe de Patrick Paquette, de ce que je comprends, c'est que Patrick Paquette, son équipe pourrait devenir Respect Citoyen, mais tout en gardant les mêmes gens à l'interne, puis sont en train de se préparer pour les prochaines élections, là. Ça bouge, hein?
qu'il y a un rapprochement, ce que je comprends, moi, là, on est à chaud, là, Yannick, on s'entend qu'on regarde ça. Tu dis que puis équipe Priorité Québec devienne... Moi, je serais surpris.
Ça va se faire dans les prochaines heures, puis je sais que dans les plans de Stéphane Lachance, il voudrait intégrer équipe Priorité Québec à Respect Citoyen.
Moi, c'est ce move-là, c'est cette partie de qui avale qui, là, qui me surprend, parce qu'équipe Priorité Québec, ils ont du staff à l'Hôtel de Ville, ils ont une structure, exact. Ils ont deux élus, ils ont un chef non élu, mais qui est quand même Patrick Paquette, qui a quand même une belle visibilité aussi à l'hôtel, donc une légitimité à l'Hôtel de Ville. Alors, ça m'étonnerait que ce soit cette structure-là de parti qui débarque au profit de l'autre.
Mais c'est dans les rumeurs. Mais
on commente à chaud.
C'est dans les rumeurs, mais je peux te confirmer que dans les prochaines heures...
On va se texter
heures,
cet après-midi.
Ils vont se rencontrer. D'après moi, si tu parles à Stéphane Lachance tantôt, tu dois avoir un bon papier demain matin.
Ben, coudonc. Mais là, c'est-tu un wishful thinking de Lachance, oui?
Bien, s'ils se rencontrent, c'est parce qu'il y a de l'ouverture des deux côtés. Ce que je sais, c'est qu'ils en seraient à leur deuxième rencontre de ce type-là. Là. La première a quand même bien été, puis là, ben la chance aurait quelque chose de plus gros à offrir.
Bien, coudonc. En tout cas, il y a une réalité, c'est que tôt ou tard, puis ça, c'est quelque chose de grave, puis ça revient un peu à ce qu'on disait sur Repensons les vies de Serge Bonin. Ça va arriver vite, l'élection. Moi, je réalisais, puis je l'écrivais ce matin dans ma chronique. Regarde, on est mi-avril, là. Ça, c'est aussi bien dire qu'on est rendu presque à l'été.
Ouais.
On va passer l'été, barbecue et pichette de blé d'Inde, bang, on est au mois de septembre, on est à un an de la campagne. Donc, c'est sûr que les stratégies vont commencer, les candidatures vont rapidement. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là. Donc, si tu as des partis plus marginaux, notamment municipal, c'est sûr que unir tes forces, c'est maintenant.
Mais Samamad, ça commence à tarder un peu, là.
Ah, là, Sam, on me dit qu'il prend bien des cafés avec du monde en ville. Moi, récemment, je l'ai recroisé, je fais des blagues.
Il doit être tanné, parce qu'on le niaise, là. Il est venu ici, il y a de ça quelques semaines à la station, j'ai jasé avec, puis il me trouvait tanné, parce qu'il me disait, là, on vous écoute, là, à la radio, là, vous avez dit que j'allais me présenter, c'est beaucoup trop tôt. Oui, mais M. Hamad, notre job, c'est de le dire que vous allez vous présenter. Oui, mais je ne l'ai pas annoncé publiquement. Oui, mais justement,
mais c'est ça.
Ça serait le temps de le faire. Oui, mais j'ai pas encore, là. Tu sais, tout le monde l'agace, Sam. Puis on aimerait ça le revoir à la Ville de Québec. C'était du temps où il était député. C'est un gars qui protégeait Québec. Puis on a besoin d'un gars comme ça, qu'il soit maire ou qu'il soit dans l'opposition. On a besoin d'un gars qui protège Québec parce qu'il aime beaucoup Québec.
Ah, il y a des... il y a eu une forme de nostalgie aussi. Puis tout ça est sur fond de cette impression que, bon, actuellement, Bruno Marchand, Jonathan Julien, Geneviève Guilbeault, tu sais, les gens que Québec a eu comme représentants entre les deux paliers de gouvernement, on avait le sens. C'est pas nouveau, là, je veux dire, avec le tramway, a été un peu la quintessence de ça, mais au-delà de ça, on en a parlé. Est-ce qu'il y a eu assez de grands projets? Là, ça faisait du bien la semaine passée. Là, la phase 4 de Samuel de Champlain, de voir Julien Marchand annoncer de quoi ensemble, ça faisait longtemps. mais oui, puis Sam Hamad, ça reste une lecture. J'étais là aussi, là, j'ai couvert les faits et gestes de Sam Hamad à la grande époque des années 2012-2015. Mais il restait quand même toujours une réalité où le contexte était là. Il a récolté, puis ça, je l'ai dit en tout respect pour lui, il y avait une écoute, il était là. Québec était dans la mire du gouvernement des libéraux de Philippe Pouliard, de Philippe Pouliard à cette époque-là. Il y a eu une vraie effervescence, tu sais. Fait que lui, il a comme embarqué, il a été un très bon représentant de ça. Il y avait un contexte plus large, je pense, où actuellement la CAQ n'a pas besoin des grandes villes, n'a pas besoin de séduire Québec comme elle l'avait à l'époque, comme les libéraux l'avaient. Donc, mais Sam a très bien navigué à travers ça. Puis je pense que les gens, en tout cas autour de moi, là, il y a pas grand monde qui. Je pense que tu dis son nom, puis il y a personne qui fait pas rapport. Tu sais, il y a quand même un intérêt. Mais est-ce qu'il pourrait. Là aussi, est-ce que tu pars à zéro? Est-ce que tu pars à une autre formation? Maintenant, il y a des limites. Là. Quatre formations. Tu sais, il y a quand même quatre partis à Québec. Pour une ville comme Québec, c'est beaucoup. Est-ce qu'ils jasent encore pour, sait-on jamais, la place de Claude Villeneuve dans Québec d'abord? Ça aussi, on ne sait pas. Claude Villeneuve n'a pas annoncé ses couleurs encore. Est-ce que c'est un gars qui va faire le saut pour être candidat à la mairie? Est-ce qu'il voudrait rester, mais avec une autre figure pour la mairie? C'est bon.
À suivre, je te laisse
Alors qu'on
partir.
va avoir du fun à suivre ça dans la prochaine année.
Je te laisse partir pour le Salon du Livre de Québec. C'est à quel endroit?
Alors, c'est Centre des congrès de Québec. Nous, on a un stand à l'intérieur même du salon. Alors, ça se déroule, c'est jusqu'à dimanche. Puis, moi, j'y serai donc cet après-midi et vendredi après-midi.
On va essayer d'aller te serrer la pince. Salut Valérie Gaudreau.
Merci beaucoup.
Nous,
Grand plaisir.
on fait une
Bonne
courte
semaine.
pause.